Salut à toutes, salut à tous, c'est Manon, vous écoutez 3 en 1 sur le 94 FM.
C'est beau, c'est agréable, moi c'est ma balade phare.
Quant à vous, aujourd'hui notre périple en Bretagne, c'est une grande région française, c'est une région qui comporte combien de départements, monsieur ?
Il y a les villages.
Qui dit qu'on n'a pas de déboire ?
L'agriculture est en train de crever, sincèrement, toute production confondue, toute filière.
De venir de Paris, de Lyon, de Bordeaux, tout le monde sait qu'à Rennes, il se passe quelque chose.
Bienvenue dans 3 en 1, votre émission d'actualité locale sur Canal B. Il est midi 15 et nous sommes mercredi 22 avril, ou jeudi 23 avril, si vous nous écoutez en rediff. Et si c'est le cas, bonne matinée à vous. Et dans l'émission du jour, nous avons reçu Anne-Marie Catheline, chargée de mission cohabitation intergénérationnelle solidaire au sein de l'association La Maison en Ville, pour parler du rôle de la cohabitation intergénérationnelle face à l'isolement des personnes âgées. Et puis Valentine, qui est avec moi en plateau, tu t'es rendue il y a quelques jours dans une ferme urbaine.
Tout à fait. Ce week-end, ce sont les 48 heures de l'agriculture urbaine, un événement national qui réunit les acteuristes de ce domaine autour de trois axes phares: végétaliser, jardiner et sensibiliser. Alors l'occasion pour moi de questionner le rôle et les intérêts de l'agriculture urbaine aujourd'hui, et je suis donc allée à la ferme du Pré rencontrer Hélène Brett, fondatrice de l'association Colvert Rennes. Un reportage en deux parties, et dans ce premier épisode, elle répond à la question suivante: l'agriculture urbaine peut-elle in fine nourrir les villes ? La réponse dans quelques instants.
Ce sera en toute fin d'émission pour la première partie de ce reportage. Ah, vous le sentez, l'air chaud qui glisse sur votre bras, posé sur la vitre baissée de votre portière.
Tu parles de voiture, là ? Tu viens d'avoir le permis ou quoi ?
Oui, mais c'est pas le sujet. Le sujet, c'est la voiture. Quel symbole de liberté, un synonyme de road trip, un safe space où celui ou celle qui conduit est roi. Un havre de paix motorisé.
Oui, bon, un havre de paix qui roule à 130, désingue la biodiversité et crache du pétrole sur la faune et la flore que tu traverses. Safe space, mais pas pour tout le monde.
Oui, bon, la voiture, c'est un désastre écologique et une manière de vivre nos territoires qui écrase tout sur son passage, certes. Mais moi, j'y croyais il y a peu encore, à ce mythe de la liberté et de l'autonomie pour tous et toutes. Je pensais que dans ma voiture, je serais à l'abri de la violence du monde et qu'une fois le code de la route intégré, tous les conducteurs et conductrices étaient égaux en devoirs et en droits.
Amen, quelle naïveté.
Oui, j'étais bien naïve. J'y ai découvert en fait des comportements tout à fait représentatifs du reste de la société. Celui qui domine, eh bien, il domine. Et les autres, c'est marche ou crève, littéralement. Et ce n'est pas Lisbeth Média qui dira le contraire. Le média indépendant, féministe et breton a publié une enquête sur la sécurité routière, ou plutôt devrais-je dire l'insécurité routière, et de la responsabilité des hommes là-dedans. Selon les chiffres du ministère de l'Intérieur, les hommes représentent 89% des conducteurs alcoolisés impliqués dans des accidents mortels et 84% des auteurs présumés d'accidents mortels, le tout en 2024.
Donc on peut rayer définitivement l'expression « femme au volant, mort au tournant » et la remplacer par « homme au volant, mort au tournant ».
Bah, c'est a priori ce que nous disent les chiffres. Alors, à tous ceux qui les invalideraient en affirmant que c'est parce que les hommes passent plus de temps sur la route, eh bien non, puisqu'à temps de déplacements équivalents en voiture, les hommes ont 5 fois plus de risques d'être auteurs d'un accident mortel. CQFD. Autre point intéressant de cet article, Lisbeth Média rapporte, sur la base d'un documentaire réalisé en 2014 par Colline Serrault, que les rares femmes venant en stage de récupération de points viennent parfois pour éviter que leur mari ou leur fils ne perdent définitivement leur permis.
Ah oui, en fait, elles endossent la responsabilité des amendes à la place d'un de leurs proches.
Exactement. Et toujours dans cette même veine, selon la Ligue contre la violence routière, une association loi 1901 qui se bat pour plus de sécurité sur la route, en 2022, 51 000 permis ont été perdus par des hommes pour seulement 10 000 par des femmes. Les chiffres parlent donc d'eux-mêmes. Chers hommes, vous êtes 5 fois plus nuls et 5 fois plus irresponsables que nous, les femmes, en conduite. Bref, si vous voulez en savoir plus à ce sujet, rendez-vous sur lisbethmedia.com. L'article vous apprendra également que les inventeurs des essuie-glaces, du rétroviseur, du clignotant et des plaquettes de frein étaient des inventeuses. Il parle également d'apprentissage de la mécanique en autonomie si vous en avez marre que votre garagiste vous facture 3 fois trop et vous prenne pour une conne. La lecture de cet article vous détendra peut-être après avoir passé votre fin de journée dans les bouchons.
ou peut-être qui vous donnera envie de rejoindre définitivement la team vélo, même si ce n'est pas forcément possible au quotidien pour tout le monde, ça reste le plus efficace pour protéger vos poumons et ceux de vos enfants. I'm a cruise ship designer. I'm striking while the iron is hot. I'm making the most of a bad situation. Cruises are big business. I don't personally like them, but I need to serve a useful purpose. I desire very much a place in society. So designing cruise ships is my pastime and my living and my challenge. Designing cruises is for me a privilege and a lesson, need to do it all the time.
Need to do it all the time.
Cruise ship designer, striking while the iron is hot.
Striking while the iron is hot.
Making the most of a bad situation. It's a powerful boat for a powerful mind. And I design hotels that cause controversy. But I'm semi-anonymous, climbing ladders. I'm not an ambitious man, I believe in design. Et vous venez d'écouter Cruise Ship Designer de Dry Cleaning sur le 94 FM. Et à l'occasion de la semaine de l'intergénérationnel du 23 au 29 avril, nous avons reçu dans 3 en 1 Anne-Marie Catheline de l'association La Maison en Ville. La France compte de plus en plus de personnes âgées. Au 1er janvier 2025, 14,9 millions de personnes résidant en France avaient 65 ans ou plus, soit 22% de la population. Le 30 septembre 2025, le troisième baromètre de l'isolement des personnes âgées a été publié par l'association Les Petits Frères des Pauvres. Et parmi les enseignements que l'on peut en tirer, il y a notamment un chiffre qui inquiète, 750 000. 750 000, c'est le nombre de personnes en situation de mort sociale aujourd'hui en France. Par mort sociale, on entend le fait de n'avoir aucun lien avec famille, amis, voisins ou réseau. C'est donc une situation d'isolement extrême. De nombreuses associations tentent de lutter face à l'isolement des personnes âgées. C'est le cas notamment de la Maison en Ville, une association créée en 1997 qui accompagne notamment les jeunes grâce à plusieurs formes d'hébergement. L'une d'entre elles est la cohabitation intergénérationnelle où un étudiant ou une étudiante vit avec une personne âgée. Et pour parler de cette lutte contre l'isolement des personnes âgées, nous recevons aujourd'hui sur le plateau de 3 en 1 Anne-Marie Catheline, chargée de mission cohabitation intergénérationnelle solidaire au sein de l'association La Maison en Ville. Bonjour.
Bonjour Manon.
Nous allons donc écouter un court témoignage de Jacqueline, l'une des logeuses de l'association La Maison en Ville. À plus de 90 ans, elle nous partage son expérience de la solitude et ce que la cohabitation intergénérationnelle lui apporte.
Depuis quelque temps, désormais, j'ai besoin un peu d'aide pour les déplacements, pour les courses. Je suis seule depuis longtemps puisque je suis restée veuve il y a un peu plus de 30 ans. Un petit peu la solitude, mais au départ pas trop parce que je bougeais, j'avais des activités associatives que j'ai dû interrompre maintenant. Un petit peu quand même la solitude parce que ma famille est éloignée, ils sont tous un peu dispersés ici et là. Je n'ai personne à proximité. Ce que je trouve dans ce système, c'est justement ce dont je pense j'ai besoin, à savoir cet échange de services, on peut dire.
Jacqueline, comme beaucoup d'autres personnes de son âge, ne peut plus beaucoup sortir de chez elle pour des raisons de santé. Alors pas le choix, il faut que les gens viennent à elle. Anne-Marie Catheline, est-ce que le profil de Jacqueline, c'est un profil que vous rencontrez régulièrement ?
Alors, elle a le point commun avec plusieurs logeurs de la Maison en Ville. En effet, la majorité sont des personnes seules. Elles ne sont pas en couple chez elles. Beaucoup sont des femmes, mais il y a aussi des hommes. Cette année, il y a plus de femmes que d'hommes, mais parfois ça s'équilibre plus. Il y a moins de couples. Beaucoup, alors ils viennent à l'idée d'accueillir à leur logement parce que il s'est passé un changement dans leur vie. Donc le départ du conjoint par exemple, ça peut être le décès du conjoint, ça peut être un pépin de santé qui fait qu'on se sent un peu plus fragile. Et l'envie de plus être seul se manifeste. Et ça peut être une solution.
Et du coup, c'est quoi la motivation qui pousse les personnes à se tourner vers la cohabitation intergénérationnelle solidaire ?
En fait, la vraie motivation pour se tourner vers la cohabitation intergénérationnelle solidaire, c'est cette envie de ne pas être seule. Le plaisir qu'on a à ne pas être seule et puis générer du lien social. Le baromètre des petits frères des pauvres dont on a parlé tout à l'heure, il nous en parle, il parle de la qualité des liens. Et ben pour les personnes qui parfois, à cause de X ou X raisons, d'être moins mobiles, ils sortent moins de chez eux, je crois que dans le baromètre, c'est 9 millions de personnes âgées qui ne sortent pas de chez elles tous les jours, c'est ô combien précieux de savoir que chaque jour, on va pouvoir avoir un moment de papotage, un moment d'échange avec quelqu'un, où le lien se crée. Parce que habiter avec quelqu'un, donc c'est... prendre le temps de faire connaissance ensemble et après construire ces petits moments d'échange, de partage. C'est ça la cohabitation intergénérationnelle solidaire. C'est ce luxe de pouvoir avoir cette proximité avec quelqu'un au quotidien et se partager des petits coups de main.
Et justement, parmi les personnes que vous accompagnez, quand vous les rencontrez au départ, est-ce qu'il y a un indicateur qui vous fait vous dire que cette personne, plus qu'une autre, a vraiment besoin d'une présence ?
Pour moi, ce qui est primordial, c'est que la personne, elle en ait envie. Par exemple, on ne peut pas le penser à sa place. Par exemple, ça ne peut pas être l'entourage ou un enfant qui dit « faut mettre ça en place parce que c'est bien ». Il faut que la personne, elle en ait véritablement envie. C'est la raison pour laquelle moi, j'aime bien aller rencontrer les personnes qui s'interrogent sur le fait d'accueillir ou pas chez elles, d'aller les rencontrer chez elles, de discuter ensemble. Et puis, qu'elles puissent me dire effectivement leur motivation pour pas être seule. Comment on bâtit ensemble ce projet d'accueil. C'est vraiment très personnalisé l'accompagnement qu'on peut faire avec la maison en ville. On fait du sur-mesure avec les logeurs. Et le moteur numéro un que les personnes manifestent, c'est souvent ça, de rendre service. Ça, les logeurs, ils savent que par leur action, les jeunes, ils vont être hébergés dans de très bonnes conditions parce que ça va être... des conditions d'accueil beaucoup plus spacieuses et confortables que d'être dans un petit logement de 9 mètres carrés et tout seul. Donc là aussi le fait de ne pas être seul. Donc c'est vraiment sur cet échange, la cohabitation porte bien son nom, c'est vraiment solidaire.
Comme on a pu l'entendre dans le témoignage de Jacqueline, la perte de mobilité est l'une des causes de l'isolement. Quand une personne ne peut plus sortir de chez elle, comment peut-elle garder un certain lien social ?
Eh bien, ça, c'est une excellente question, Manon. Justement, je trouve que c'est particulièrement une bonne réponse, la cohabitation intergénérationnelle solidaire, de pouvoir cultiver du lien social et du lien social de qualité en accueillant chez soi.
Donc justement, on y vient, on en a déjà un petit peu parlé de la cohabitation intergénérationnelle solidaire. Donc face à cet isolement, les simples activités en extérieur ne sont pas suffisantes et parfois pas possibles pour les personnes comme Jacqueline. Alors il existe la solution donc de la cohabitation intergénérationnelle solidaire. Anne-Marie-Kathleen, est-ce que vous pouvez nous expliquer concrètement comment ça fonctionne ?
La cohabitation intergénérationnelle solidaire, c'est une formule d'accueil donc pour les logeurs qui ont plus de 60 ans, qui disposent d'une chambre disponible dans leur logement et qu'ils vont mettre à disposition pour un jeune qui a moins de 30 ans, qui est dans une situation soit d'être étudiant, jeune pro, en service civique, en stage, un jeune qui a un projet, qui vient dans la région et qui a besoin d'un hébergement. Donc la cohabitation intergénérationnelle, elle est encadrée depuis 2018 par la loi Elan, qui nous spécifie donc ses critères d'âge, et puis qui donne le cadre, les obligations de l'un, de l'autre, pour la vie sous le même toit. Et cette formule d'accueil, elle est accompagnée toujours par un tiers. Donc nous, à la Maison en Ville, par exemple, on va accompagner aussi bien les logeurs pour les rencontrer, préparer le projet d'accueil qui va leur correspondre, échanger avec eux sur leur centre d'intérêt. Ça va nous servir à sélectionner le jeune avec qui ils pourraient bien s'entendre pour la cohabitation, qui se déroulera en général sur une année universitaire. On va aussi rencontrer le jeune, donc il s'adresse à nous. Le jeune, il va déposer un dossier de candidature à l'association. On va le rencontrer, soit directement à l'association, soit pour le premier rendez-vous. Parfois, on utilise la visio. Et puis, il va nous expliquer un peu son parcours, ses motivations aussi, pourquoi il se tourne vers cette formule d'hébergement. Et puis, de même, ses centres d'intérêt, comment va s'organiser son parcours d'études. Nous, on va rechercher pour cette formule d'hébergement plutôt des jeunes qui sont là en continu. Pour la cohabitation intergénérationnelle solidaire, en général, les jeunes, c'est pas ceux qui sont en alternance, ou alors ils ont leur alternance au même endroit, ils n'ont pas besoin d'avoir deux logements. Dans l'idée, ils sont plutôt sédentaires, et ils vont avoir cette disponibilité à la fois dans leur emploi du temps, pour s'engager dans cet échange, et avoir l'envie, la motivation de pouvoir partager des temps d'échange et des temps d'échange de qualité au quotidien avec leurs logeurs. The sun don't want to shine, then I'm not begging. We won't ask for forgiveness or knock at the gates. We've played that game before.
Sur Canal B, un morceau du groupe The Bug Club, extrait de leur nouvel album qui sortira le 29 mai prochain. Vous êtes toujours dans 3 en 1, l'émission d'actualité locale de Canal B, et je vous propose d'écouter tout de suite la deuxième partie de l'interview d'Anne-Marie Catheline, chargée de mission cohabitation intergénérationnelle solidaire au sein de l'association La Maison en Ville, et ensemble on parle lutte contre l'isolement des personnes âgées.
De ce que vous voyez, qu'est-ce que ça apporte en termes de lien social pour les personnes âgées ?
Alors, il y a énormément de bénéfices qu'on peut relever pour les logeurs. Donc, si on s'intéresse particulièrement aux logeurs, la cohabitation intergénérationnelle solidaire, ça permet d'être assuré. C'est mécanique. Ne pas être seul au logement, ça apporte cette forme de présence rassurante. Par exemple, c'est, je pense, dans... l'association nationale qui accompagne la cohabitation intergénérationnelle solidaire, qui s'appelle Ensemble de Générations, en 2024-2025, elle a commencé à faire un peu des études d'impact. Et les personnes âgées qui accueillent, Il y en avait au moins 65% qui disaient ça dans les retours, la présence rassurante. Donc ça, ils peuvent le nommer, c'est très important. Les bénéfices, après, ça va être sur aussi le lien, des petits coups de main qu'on peut avoir pour l'aide numérique, pour l'utilisation de la tablette, l'ordinateur, les téléphones mobiles, pour voilà, faire des transferts de photos, avoir des choses, des fois, des petits conseils. Ça, c'est très, très cité aussi. Les bénéfices sur la vie quotidienne, c'est lié au projet. En fait, accueillir quelqu'un chez soi, c'est très dynamique. C'est être dans une dynamique de projet. En filigrane, ça génère plein d'effets positifs derrière. Donc cette dimension-là d'accueil, cette dimension de manger ensemble, bah, des fois les gens ils retrouvent l'appétit, ou en tout cas ils ont plus d'entrain pour faire des choses, pour faire découvrir des recettes ou avoir le plaisir de découvrir les recettes de l'autre. Il y a beaucoup d'échanges, de convivialité dans les cuisines, beaucoup d'éclats de rire aussi. Donc en général c'est très gai, la cohabitation intergénérationnelle aussi, et je vois beaucoup de gens qui sont détendus et qui sont souriants parce qu'ils sont heureux de faire ça, parce qu'ils sont pas seuls, et ne pas être seuls, et ben ça a plein de bénéfices et plein de bienfaits pour la santé. Donc comme bien dormir, mieux manger, voilà tout plein de petits exemples sur la stimulation et l'échange, les bénéfices que peuvent procurer ce forme de solidarité.
Est-ce que tout le monde peut prétendre à ce type de cohabitation pour ce qui est des logeurs et logeuses ?
Ouais, alors c'est assez large. On peut accueillir chez soi si on est propriétaire. C'est possible aussi si on est locataire. Donc beaucoup de personnes peuvent envisager d'accueillir. Il faut avoir une chambre disponible dans son logement pour accueillir un jeune. Après, ils partagent la cuisine, il y a les espaces de vie qui sont partagés. Les critères pour lesquels on pourrait avoir un frein pour l'accueil, ça peut être une réflexion sur tout le process du maintien à domicile. Par exemple, la cohabitation intergénérationnelle solidaire, c'est un des maillons de la chaîne de solidarité pour rester à son domicile dans les meilleures conditions possibles, le plus longtemps possible. Mais parfois, il faut aussi mettre en place des aides professionnelles pour les actes de la vie quotidienne. Donc ça peut être parfois une étape. On peut dire, oui, on pourrait envisager de préparer un accueil, si. Et on met en place soit un aménagement du logement ou des petits aménagements qu'il faut faire, ou alors faire intervenir des professionnels du maintien à domicile qui vont permettre que tout soit bien maillé dans l'organisation et pour que tout le monde soit en sécurité et que ça se passe bien.
Est-ce que ça arrive, par exemple, lors de moments de rencontre, que ce soit une rencontre juste avec une personne ou une rencontre lors d'une activité où vous participez ou d'une animation, que vous vous dites que la personne, les propos qu'elle peut tenir, par exemple, sur les jeunes ou sur la jeunesse en général, vous vous dites, cette personne n'est pas faite pour accueillir un jeune chez elle ?
Moi, je crois que j'ai beaucoup de chance. J'ai pas trop entendu des réflexions de ce genre-là. Moi, je trouve que le point commun des logeurs, c'est l'esprit d'ouverture. Ils ont cette soif de rencontrer justement des gens d'âges différents. C'est plutôt un intérêt que je constate. Et souvent, ils ont cette curiosité de se dire mais comment on pense aujourd'hui, en 2026, quand on a 20 ans ? Et voilà, la société, elle bouge. Et ils me disent souvent moi, ça me permet de me rapprocher aussi de mes petits-enfants, de côtoyer des personnes plus jeunes. Et c'est une envie. Ils aiment bien avoir dans leur entourage des gens un peu de tous les âges et pas que de leur âge à eux. C'est plutôt une richesse.
Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un déséquilibre entre la part de demande des étudiants et des étudiantes pour la cohabitation intergénérationnelle et le nombre de logeurs et logeuses disponibles ?
Ouais, en général, pour l'instant en tout cas, tant que peut-être le bouche à oreille n'est pas assez développé, ce qu'on constate, c'est que souvent, il y a plus de jeunes qui recherchent un hébergement dans cette formule que de logeurs disponibles pour la cohabitation intergénérationnelle solidaire.
On a parlé de lien social et bien souvent, les personnes qui viennent, les jeunes, c'est des étudiants qui restent là pour une année, deux, trois ans, mais rarement plus. Évidemment, les personnes, elles peuvent accueillir de nouvelles personnes, etc. Et ça peut s'enchaîner. Mais est-ce que les personnes, vous avez des ressources sur les personnes qui accueillent ? Est-ce qu'elles ont toujours un contact avec les étudiants qu'elles ont pu avoir ? Ou est-ce que c'est vraiment éphémère et ça s'arrête quand la personne part ?
Ah, ça, c'est vraiment au cas par cas. Bien sûr, dans la rencontre, il y a des fois des attachements, des liens qui se créent et qui perdurent dans la durée. Et donc, pour certains, c'est une évidence. Quand ils reviennent, par exemple, à Rennes, où ils ont fait leurs études, ils passent dire bonjour à leur logeur, ou ils envoient leurs vœux, ils donnent des nouvelles de quand ils ont eu leurs examens, quand ils poursuivent, par exemple, pour le master dans une autre ville. Certaines fois, le lien perdure, puis des fois, pas forcément. Et c'est pas grave, parce que l'objectif, c'est aussi d'être bien là où on est pendant l'année. Et puis, il y a peut-être des affinités, parfois, avec certaines personnes qui sont plus fortes. Donc ça, c'est la vie. Mais ça arrive, on a de très, très, très belles histoires.
Merci Anne-Marie Catheline d'avoir répondu à mes questions sur le plateau de 3 en 1. Je le rappelle, vous êtes chargée de mission cohabitation intergénérationnelle solidaire au sein de l'association La Maison en Ville.
Merci beaucoup Manon.
Et à l'occasion de la journée européenne de la solidarité intergénérationnelle, mercredi 29 avril, l'association La Maison en Ville propose un après-midi ludique autour du jeu, l'occasion de se réunir, de faire découvrir l'association à celles et ceux qui ne la connaissent pas. Ça aura lieu mercredi 29 avril de 15h à 17h au Jeu de Paume, 12 rue Saint-Louis, dans la salle Pédican. Et désormais, on part avec Valentine à la ferme du Pré à Chantepie.
On entend encore le périphérique rennais, et pourtant, il y a comme un air de campagne. Soleil au rendez-vous, oiseaux en fond sonore, un mince cours d'eau nous accompagne, un panneau vente directe nous arrête. À gauche, un portail grand ouvert comme une invitation. Le goudron s'efface, la terre prend le relais, et nous voilà à la ferme urbaine du Pré à Chantepie. Devant le cabanon, Hélène nous attend.
Je suis Hélène Brett, je suis directrice et coordinatrice de l'association des Cols Verts Rennes. Donc on a deux sites, on a le potager des cultures qui est derrière le triangle, et aujourd'hui on se trouve au Pré, qui est sur la commune de Chantepie, à 10 minutes à pied depuis le métro de la Poterie.
Si la micro-ferme du Blône est à vocation pédagogique, celle-ci de 1 hectare dont 7000 m² de surface agricole est davantage axée sur la production. Autour de moi, des serres, un tracteur, un système de maraîchage quasi traditionnel, et une question ressort, les fermes comme celle-ci ont-elles la capacité, à terme, de nourrir les villes ?
Alors pour nourrir une ville comme Rennes de presque 400 000 habitants, il faudrait beaucoup, beaucoup de fermes. On n'y est pas encore hein, et on n'y sera pas d'ici un bon moment. Par contre, je pense que l'enjeu, il n'est pas là forcément. D'autant plus que nous, on est en statut associatif, on est subventionné à plus de 60%. Des maraîchers et maraîchères, par exemple, qui sont en bio sur des petites exploitations, alors on sait tous les enjeux qu'il y a derrière la PAC et compagnie. Ce ne serait pas légitime en fait que ce soit nous demain qui nourrissions la ville. Par contre, on a plein d'autres enjeux.
Une volonté de ne pas remplacer nos agriculteurs tout en restant une porte d'entrée dans le monde agricole. Des incapacités techniques liées directement à l'agriculture en zone urbaine expliquent aussi cette impossibilité.
Alors, en agriculture urbaine, on a des contraintes qui sont très spécifiques à l'environnement dans lequel on est, au métier. Quand on est sur une ferme, sur plusieurs hectares en zone rurale, bon voilà, tu peux tes bottes, tu peux les laisser devant chez toi. T'es pas obligé de... Normalement, on range ses outils, mais bon, tu peux laisser traîner deux, trois choses. Nous, par exemple, c'est pas possible. Il y a forcément un temps de rangement induit tous les jours, puisqu'on a des intrusions et des vols qui sont assez réguliers. Il y a des vols de production, pareil, qui sont assez réguliers. Par exemple, en haute saison, 20% de vols sur notre production, ce qui est beaucoup.
Au-delà des contraintes liées à l'espace urbain, des difficultés environnementales entrent aussi en jeu. Pas facile de trouver un terrain viable dans nos villes.
Il y a tous les enjeux au-delà de la vie quotidienne de l'asso qui sont la qualité des sols. Les sols qui sont pollués et pas de bonne qualité, dans lesquels soit il n'y a pas de profondeur, soit bah, la terre c'est de la glaise et ça ne fonctionne pas. La question justement de trouver des espaces qui ne soient pas non plus au pied complètement des habitations, parce que du coup on peut parfois empiéter sur le quotidien des gens. Il y a une acceptation qui doit être assez forte de la part des citoyens et citoyennes, ce qui est normal puisque en fait on vient aussi dans leur environnement.
Si nourrir les villes n'est ni une ambition ni une possibilité, l'agriculture urbaine répond à d'autres enjeux dont celui de former au maraîchage.
On a aussi le fait qu'on accueille des bénévoles toutes les semaines. la majorité de nos bénévoles n'ont pas de compétences en fait en maraîchage ou en jardin, donc ils sont vraiment là pour apprendre, pour passer un temps collectif, s'intégrer à un projet social et écologique. Donc il y a, nous on est dans l'essai-erreur, en fait on s'inscrit dans l'éducation populaire. Donc il y a aussi cet enjeu-là, on peut foirer des choses, il y a juste par exemple les semis, généralement on ne le fait pas avec des bénévoles.
Des contraintes techniques, humaines et environnementales restreignent donc la production, mais si l'agriculture urbaine n'est pas là pour nous nourrir, quels intérêts sert-elle? Hélène Brett répondra à cette question lors du deuxième épisode, diffusé mercredi 29 avril prochain dans 3 en 1.
Merci Valentine pour ce reportage, 3 en 1 c'est fini pour aujourd'hui. Merci aussi à Anne-Marie Catheline de l'association La Maison en Ville d'avoir répondu à nos questions et merci à toute l'équipe de 3 en 1 pour la réalisation de cette émission, Julie, Nina et Valentine. Et pour rappel, tous les podcasts de 3 en 1 sont à retrouver sur le site canalb.fr et à réécouter les lendemains en rediffusion sur le 94 FM à 8h15. Bonne journée à vous !